Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 38, troisième saison de ce vendredi 11 mars en compagnie des gars de la presse. Guillaume Lefrançois qui est avec nous. Salut, Guillaume.
Salut, JR.
Nous avons également Simon-Olivier Laurent. Salut, Simon-Olivier.
Bonjour.
Et le collègue Jérémy Filosa. Salut, Philo.
Salut, les gars.
Comment allez-vous, messieurs? Ça va bien? En forme?
Oui. Super bien.
Bon, parlez-moi de ça. Hey, savez-vous quoi? Je regardais l'entraînement aujourd'hui et d'ailleurs, Guillaume Lefrançois qui est en direct de Brassard là-bas. Il y a du monde à la messe, les amis, là. Hein? Il y a du, les blessés sont revenus et il y a beaucoup de monde, là, présentement chez le Canadien. Peut-être, Guillaume, peut-être nous donner un portrait de ceux qui sont revenus. Je sais que Drouin était là. Dvorak également était là.
Exactement, Drouin, Dvorak, là, c'est sûr qu'à l'avant, c'est les deux retours les plus imminents. Mais oui, il y avait du monde à la messe, comme tu sais, il y a même quelqu'un qui disait, en regardant un collègue, il disait, écoute, on dirait un entraînement, on dirait le camp d'entraînement. 17 attaquants, seulement 7 défenseurs, puis à l'inverse, puis en plus de ça, le 7e qui est Kjell Klag, a reçu une rondelle en plein visage à toute fin. Rien de bien grave, il y avait un peu de sang, mais bon, ça reste seulement une rondelle au visage. Mais c'est ça, à l'avant, oui, c'est ça.
Le gars, il manque seulement 4 dents.
Bon, exact. Mais je vous dirais, par contre, c'est ça. Donc, oui, Dvorak est Drouin, mais Joel Edmundson avait plus l'air d'un gars près d'un retour. Il faisait des exercices avec Chris Weidman de temps en temps. Donc, est-ce que ça va être pour demain? Là, on verra. Mais disons que parmi les trois, c'est lui qui a l'air d'être le plus près de revenir au jeu.
OK, messieurs, je veux juste poursuivre avec Guillaume quelques instants. Point de presse, est-ce que on a confirmé qui pourrait être là officiellement pour le match de demain ou on se garde une petite gêne encore?
On se garde une petite gêne. Martin Saint-Louis a vraiment pas voulu aller dans les détails. Donc non, ça là-dessus, on reste un peu dans l'inconnu. Ce qui est intéressant de noter, par contre, c'est notre collègue Martin McGuire qui me soulevait le point, mais le Canadien joue quand même deux matchs en deux soirs, samedi et dimanche. Donc là, est-ce que tu veux ramener un joueur qui a pas joué depuis juillet? Est-ce que tu veux le ramener nécessairement dans une situation comme ça et le faire jouer deux matchs en deux soirs tout de suite? Peut-être pas. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on va se garder une petite gêne avant de ramener Edmundson.
OK, je fais un tour de table rapidement. Je vais y aller avec Simon Olivier pour débuter. Le Canadien a connu du succès récemment. Revient de son voyage avec 3 victoires, 2 défaites. On le sait, depuis que Martin Saint-Louis est là, il y a une dynamique qui est différente. Est-ce que tu vois d'un bon œil d'arriver et de rentrer des gars, des blessés? Tu n'as pas le choix, tu vas me dire. Mais est-ce que tu n'as pas peur que ça brise un peu un petit quelque chose qui s'était bâti? Ils sont quand même derniers dans la Ligue nationale.
Ben, c'est ça, j'allais dire. Ils sont quand même derniers dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, ce qu'ils ont bâti, ben, là, c'est le fun. Mais, tu sais, je vais le prendre à l'envers. Je pense qu'un gars comme Drouin, tu sais, je suis porté à croire que de voir, en plus, c'est Saint-Louis qui est arrivé. Tout ça, je pense qu'ils ont eu l'air de se parler beaucoup dans les entraînements. Je voyais les images, même si auxquelles j'ai pas assisté. Je pense qu'il doit avoir hâte d'embarquer dans la fête, lui aussi. Puis, il y a quand même beaucoup de joueurs assez interchangeables chez le Canadien, tu sais. C'était le fun de revoir Mathieu Perrault récemment, mais Mathieu Perrault a déjà été laissé de côté quand, Jake Evans est revenu. Après ça, c'est Pezzetta, il est très sympathique, mais lui aussi, c'est pas un grand joueur non plus. Fait que je pense que c'est pas très compliqué à ajouter des éléments dans l'alignement, surtout quand c'est des vétérans qui devaient faire partie du groupe cette année. Je pense que ça devrait assez bien aller.
OK, Philo, on brise pas la chimie ou on brise la chimie, ça change rien?
Pff, écoute.
Chimie, quoi?
C'est un bon point. C'est parce que les joueurs qui sont les mieux payés, là, à un moment donné, il faut qu'ils jouent. Même si t'as des jeunes qui émergent, puis ils jouent bien récemment, puis tout ça, tu peux pas dire à Dvorak, bon, ben, t'es prête, mais prends une couple de jours de plus et tout ça. Heureusement, on arrive à la date limite des transactions, puis il y a des choses qui vont tomber en place, tout simplement parce que, tu sais, tu vas avoir des joueurs qui vont être rétrogradés, tu vas avoir des transactions, tu vas avoir des joueurs qui vont quitter. Mais j'ai rarement vu une organisation qui arrive à l'entraînement, puis c'est quoi? Il y avait 6 ou 7 joueurs supplémentaires aujourd'hui.
Quand même, hein?
Tu sais, c'est à l'image de ce qu'on a vécu là.
Quand j'ai vu l'alignement, j'ai dit à Jérémy Filosa, j'ai dit, Philo, regarde, ça c'est l'alignement d'un club qui va échanger des joueurs dans pas longtemps. Il y a beaucoup trop de joueurs présentement.
En passant, votre conversation me rappelle au sujet du surplus de joueurs qu'il y avait également 3 gardiens. On parlait juste de patineurs, mais il y avait 3 gardiens et Jack Harlan aussi a l'air d'être très près d'un retour. Donc c'est un autre retour à surveiller.
En tout cas, pour les gens qui n'ont pas fait le décompte à la maison, 17 attaquants, 7 défenseurs, 3 gardiens, ça fait un grand total de 27 joueurs. Il faut en garder 23 d'ici au match de demain. En fait, là, ça veut pas dire qu'ils sont tous en forme. Là, on s'entend, si Drouin, Dvorak, Allen et Edmondson sont pas prêts, ça règle le problème tout seul. Mais tu sais, dans les prochains jours, il va y avoir du mouvement, forcément.
Et le pire, c'est qu'on avait un dossier super important. Les jambières d'Andrew Hammond, c'était réglé. Les jambières rouges sont là maintenant. Donc, c'est terminé, les jambières vertes de l'organisation du Wild du Minnesota. Vous voulez pas commenter? Parfait.
Mais là, attends, là, il est 3 victoires, aucune défaite. Là, on change pas une formule gagnante.
Arrête,
là, est-ce que
arrête. Les rondes.
Mais Laval, c'est les mêmes couleurs. Hein? C'est jamais juste dire.
Oh, là, t'amènes un point intéressant. OK. Simon-Olivier, aujourd'hui, t'as pondu un texte dans la Presse Plus, un texte fort intéressant. Tu parlais des candidats potentiels qui pourraient quitter le Canadien. Et ce que j'ai apprécié dans ton texte, c'est que t'as subdivisé ça en portions, en, tu sais, presque fait. On va pas surprendre personne. Ça vient du champ gauche et ça va être compliqué de les échanger. Puis les gars, je pense que ça vaut la peine de prendre du temps là-dessus. Dans le presque parti, je pense que tout le monde va être d'accord. Puis Simon-Olivier, je vais te laisser commencer là-dessus. Ben Chiarot, sans l'ombre d'un doute, c'est le gars qui est le plus probable à quitter l'organisation du Canadien.
Ben, je pense que probable, on l'utilise. Puis c'est ça que j'écrivais dans le texte, quasiment pour être fin, parce que, tu sais, on sait jamais une blessure ou quoi que ce soit qui peut arriver. Mais tu sais, il y a eu Kent Hughes a donné une entrevue à Sportsnet récemment dans laquelle il a dit nous allons échanger Ben Chiarot. Puis je veux dire, c'est certain. Là, il y a plus de doute. Je vois pas. Chiarot, évidemment, je pense qu'il y a une liste d'équipes à laquelle il veut pas. Mais tu sais, tout ça mijote depuis des semaines, des mois. Est-ce qu'ils vont le faire bientôt? Est-ce qu'on va attendre encore les 10 jours? Peut-être, mais c'est Chiarot, il y a aucun doute que s'il reste en santé pour les 10 prochains jours, le 21, c'est plus un joueur du Canadien.
Philo, toi, Ben Chiarot, est-ce que finalement, je vais te reposer la question qu'on pose toujours. Est-ce qu'on serait pas mieux finalement d'essayer de le garder ou on garde le plan, on garde l'objectif?
Si on en parle de cette façon-là, aussi définitive, c'est parce qu'on a eu des discussions avec l'agent puis on sait pas mal où est-ce qu'on s'en va. On sait probablement ce que le gars va demander cet été. C'est peut-être pas dans les plans de l'équipe d'investir autant d'argent que ça sur un gars comme Ben Chiarot. Donc je présume que c'est pour cette raison-là qu'on parle de le laisser partir. Mais c'est sûr que s'il y avait une entente à faire à un prix raisonnable pour Ben Chiarot, moi, j'y penserais sérieusement. Là.
OK, mais il va quand même pas commander 6 millions par année, là?
Non, mais ça pourrait être 5, par contre.
Ah oui? Vous avez un doute?
Ben, ça pourrait être 5.
OK. Guillaume, ton côté, Ben Chiarot?
J'ai absolument aucun doute. Je pense qu'il s'en va parce que, tu sais, oui, à ce que la direction pense, mais j'ai comme l'impression que lui-même, tu sais, j'ai l'impression, je ne sais pas, je suis pas dans sa tête, mais c'est lui-même dans sa tête, il sait qu'il est parti, il commence à avoir la tête ailleurs, il est tard un peu pour remettre le dentifrice dans le tube. Donc moi, tant qu'à moi, pour Chiarot, j'ai comme l'impression que c'est chose faite. Le cas que je trouve intéressant, moi, puis tu sais, oui, je sais qu'on a parlé beaucoup d'Arturi Lehkonen parce que il vient de connaître être un excellent voyage, mais sa renaissance offensive là, c'est pas non plus juste une petite séquence. Aujourd'hui dans les points de presse, ce qui m'incite à retourner voir, c'est que j'avais oublié à quel point il y avait un début de saison très très tranquille offensivement. Après 13 matchs, il y avait un seul point, il y avait une passe. Depuis ce temps-là, ça veut dire, il a joué 41 matchs. C'est un chiffre qui est le fun pour des calculs. En plus, 41 matchs, c'est exactement une moitié de saison. Et c'est 13 buts, 14 passes, 27 points. Donc ça, là, tu sais, je veux dire, sur un échantillon quand même d'une demi-saison, on parle pas juste d'un gars qui part sur une séquence, là. C'est quand même une demi-saison. Mais c'est un rythme de 26 buts, de 54 points. C'est un échantillon aussi qui couvre deux entraîneurs. Donc, tu sais, on peut pas dire que c'est seulement l'effet Martin Saint-Louis. Donc, tu sais, je veux dire, il y a quand même quelque chose, là, offensivement dans Lehkonen cette saison. Qui fait en sorte que, regardez, si Kent Hughes décide que c'est le temps de partir, il y a des maudits bons arguments pour aller se négocier un bon retour.
Moi, là, juste vous dire, je regardais les statistiques et tu parlais des 28 points maintenant pour Arturi Lehkonen. C'est lui le deuxième pointeur chez les Canadiens de Montréal. Le premier étant Nick Suzuki, 13 buts, 27 passes pour 40 points. Lehkonen, 28 points, c'est 13 buts, 15 passes. Anderson, 15 buts, 9 passes, 24 points. Caulfield, 8 buts, 15 passes pour 23 points. Mais écoutez bien les différentiels. Suzuki est à moins 17. Je saute Lehkonen. Anderson est à moins 20. Caulfield est à moins 13. Lehkonen est à plus 2. Tu sais, ça te dit aussi quel genre de joueur que t'as quand tu penses transaction ou tu sais de l'importance qu'il y a dans ton équipe.
Ben c'est que ça montre aussi qu'il a joué sur des trios défensifs dans le sens où tu sais Lehkonen avant d'être appelé en renfort sur le trio de Suzuki, peut-être un peu avant le départ de Toffoli parce qu'il prenait la place qui est maintenant occupe Caulfield. C'est un gars qui était sur la troisième, quatrième trio puis tu sais Lehkonen, ça a toujours été ça son pain, son beurre, le jeu défensif. Fait que c'est un gars qui joue pas en avantage numérique ou maintenant un peu qui affrontait parfois le gros trio adverse. fait pas toujours. Puis tu sais, ça, il est bon là-dedans. T'sais, d'ailleurs, je pense que Joël Armia ne doit pas avoir un si mauvais différentiel que ça. Je le dis de mémoire, là, j'ai pas sous les yeux.
T'as moins 7. Ouais, moins 7, ce qui est parmi les joueurs qui ont été. Non, mais parmi les joueurs qui ont été là à temps plein, après Lekkonen, c'est lui qui est le meilleur.
C'est qu'en fait, Lekkonen, c'est le seul joueur dans les plus qui a joué au moins 20 matchs.
C'est incroyable. Puis, honnêtement, être à plus 2 dans cette équipe-là, puis je sais que la statistique du différentiel, t'as fait un bon tweet là-dessus cette semaine, Simon Olivier, sur au sujet de Rasmus Ristolainen. Faut en prendre puis en laisser avec le différentiel, mais sur un échantillon comme ça d'une saison de 54 matchs, que Lekkonen soit plus 2 au sein de ce club-là, je trouve ça absolument. Je trouve que c'est vraiment tout un témoignage là, de sa valeur.
Ben surtout quand tu regardes le différentiel du Canadien qui est à moins 77. Je veux dire. Comment tu fais pour te retrouver dans les positifs?
Moi, c'est l'écart entre Josh Anderson qui est à moins 20 et le plus 2 de Lekkonen. Tu sais, le temps de glace est beaucoup plus grand pour Anderson, mais ce que je veux dire, c'est que la différence est grande. Si tu différencies de 5, je peux comprendre. Mais là, on a une méchante différence. Là. On est à 18. Là.
Ouais, mais Anderson, puis c'est pas pour le défendre nécessairement.
Mais c'est ce que tu fais.
C'est ça, je suis payé par Josh Anderson. Il a joué beaucoup avec Christian Dvorak au début de l'année. On le sait, les 20 premiers matchs de la saison, Christian Dvorak, ça allait pas bien du tout. Là. Je veux dire, ça fonctionnait pas du tout. Il encaissait but après
poli.
But. Le différentiel de justement de Dvorak était peut-être le pire de la ligue après 15 ou 20 matchs. Fait tu sais, il y a de ça. Il y a aussi qu'il y a après ça sur différents trios. Les confrontations, à un moment donné, chaque trio offensif du Canadien se faisait dominer par l'adversaire. Fait que, tu sais, puis je pense pas que Josh Anderson est le meilleur joueur défensif de l'équipe, mais je pense qu'il a plus à apporter que le moins 17 que tu disais qu'il y a présentement. Puis un petit mot sur Lekkonen encore.
Lekkonen, moins 20 dans le cas d'Anderson.
Moins 20, c'est pire que ce que je disais. Tu sais, Lekkonen, c'est évidemment ce qui finit par faire rire de lui un peu, c'est son incapacité à marquer des buts. Tu sais, les fameux tirs dans le logo, là, que cette année, ça a l'air de vouloir rentrer. Mais autrement, quand on regarde au cours des années, puis pas juste cette saison, même avant, quand on regardait possession de rondelle, échec avant, occasion de marquer, Lekkonen rendait ses coéquipiers meilleurs, peu importe lesquels. Fait qu'après ça, ça veut pas dire qu'il y avait du succès offensif, ça veut pas dire que la rentrée rentrait, parce qu'il y a quand même des limites, Arthur Lekkonen. Mais c'est un gars qui a une valeur. Après ça, est-ce que cette valeur-là, on va trouver est-ce qu'on la veut pour le Canadien, pour les prochaines années, parce qu'on se dit, on va être capable de tourner, de faire virer la tendance assez rapidement pour c'est capitaliser sur ces bonnes années-là, ou est-ce qu'on va dire, justement, c'est un long processus, il arrive à 27 ans, échangeons-le quand il est au sommet de sa valeur.
Je pense que la question avec Lekkonen, c'est ce qu'on voit présentement sur la patinoire, c'est est-ce que c'est l'effet Martin Saint-Louis, est-ce que cet effet-là peut se prolonger?
Non, Guillaume l'a dit, c'était aussi Dominique Ducharme, parce que à part les débuts, de saison qui étaient difficiles, par la suite, ça s'est mis à
ce qu'on lui a toujours reproché, c'est que t'as pas capable de la mettre dedans, là, tu sais. Là, il vit sa meilleure séquence à vie. Donc, s'il est capable de bien jouer défensivement, mais d'en marquer quelques-uns une fois de temps en temps. Et c'est là, est-ce que faut que tu poses la question à Martin Saint-Louis. Puis Saint-Louis, aujourd'hui, on lui a posé la question, est-ce que les dirigeants te parlent par rapport aux joueurs et tout ça? T'sais, je pense que Martin Saint-Louis, il faut qu'il dise à ses patrons, moi, je pense que ce gars-là, je suis capable de le faire marcher comme ça, j'ai confiance. Ou il est dans une bonne passe présentement, je pense pas que c'est mon effet. Puis là, à partir de ce moment-là,
il
faut que tu prennes
une décision. Après, d'un point de presse, c'est les équipes championnes ont besoin de joueurs comme ça.
Exactement.
Ça en dit assez long sur qu'est-ce qu'on pense de lui. Puis tu sais, ce qu'on lui reprochait du fait qu'il est pas capable de marquer, c'est quand même moins pire que pas avoir de chance de marquer. Tu sais, Peeling n'a pas de chance de marquer, tandis que Lekkonen avait au moins tout le temps une à deux chances de marquer par match, pas capable de concrétiser. Mais au moins quand tu as une ou deux chances de marquer, il se passe quelque chose dans ton cas.
Et par ailleurs, cette saison, Lekkonen, son pourcentage de réussite de tir, c'est 12,6%. C'est plus élevé que sa moyenne habituelle, qui est autour de 9% les dernières années, mais c'est pas démesuré. Tu sais, quand un joueur fonctionne à 20%, faut se méfier. T'sais, William Karlsson, quand il a marqué 40 buts à sa première saison avec Vegas, on savait que ça pourrait pas garder ce niveau-là. C'est un bon joueur de hockey, mais c'est pas un marqueur de 40 buts régulier. Lekkonen, présentement, peut-être que ça va plus vite que ce qu'il devrait, on pourrait dire comme ça, mais il est pas non plus dans la stratosphère là, par rapport à ce qu'il peut donner en général. Fait que, c'est d'autres signes encourageants dans son cas.
Je disais, à son année recrue, il est à 11,4 justement, là, il est à 12,6, donc c'est ça, tu sais, oui, c'est sa meilleure saison, mais pas un niveau insoutenable. C'est pas comme, disons, Rem Pitlick qui était à 33% quand ses premiers matchs avec le Canadien. Là.
Regarde les intellectuels, ça parle des chiffres. J'ai même pas fini de prendre en note 11,6,
12,4,
32%. moins 4. messieurs, je voulais juste vous dire, j'ai lu la conversation de Guy Boucher avec Mario Langlois, et Guy Boucher disait, tu sais, tu pars pas, t'en vas pas les connaître juste pour un choix de première ronde avec la valeur qu'il y a présentement. Il faut que ça soit quelque chose qui revienne plus que juste dire, m'a donné mon, parce qu'habituellement, un club qui va vouloir avoir les connaître, c'est un club qui va être en position pour aller loin en série de fin de saison. Fait que tu peux t'attendre que c'est un choix fin de première ronde. Fait que ça prend plus que ça. Est-ce que vous êtes à un niveau où on veut autant de gourmandises? Puis je vais commencer avec Guillaume.
Ben, écoute, c'est sûr que c'est pas un joueur qui te fait mal à garder une année de plus, parce que comme il est joueur autonome avec compensation, t'es pas non plus obligé de t'entendre à long terme avec lui puis de t'imposer un autre gros contrat dans tes attaquants là, de deux derniers trios. Donc, tu sais, t'as toujours l'option si tu vois que le marché te laisse tienne un peu. Ben, regarde, entendons-nous pour une autre saison. Ça va le mener à l'autonomie complète. Puis, ben, au moins, si l'an prochain, Kent Hughes espère avoir un club compétitif, ben t'as une bonne valeur sûre là, comme tu sais à l'aile pour l'année de plus, puis on verra ce que le marché dira l'an prochain. Puis tu sais, je vais regarder si le Canadien l'an prochain se retrouve dans une lutte pour les séries, il va être très très content d'avoir encore les Conan. Donc tu sais, c'est toujours quand même une possibilité là. C'est pas comme Ben Sherratt, ou c'est pas un comme Ben Sherratt que tu vas perdre pour rien cet été si tu l'échanges pas dès maintenant. Les Conan, t'as toujours cette option là aussi en réserve.
Mais Guillaume, on n'est pas supposé être en reconstruction, on jetait tout le monde était échangé. Là, t'es pas en train de parler de série l'année prochaine. Simon Olivier.
Tu parles d'il y a deux semaines.
Non, c'est complètement avant. C'est fini maintenant. Simon Olivier, comment tu vois ça, toi?
Je pense que si c'est un choix de premier tour et un espoir de haut niveau, je pense que peut-être qu'on s'emballe un peu par le fait que justement l'équipe va pas bien, l'économie va bien. Fait qu'il y a peut-être une espèce de biais cognitif qui s'installe. Mais moi, je trouve que le cas de Barclay Goodrow serait peut-être une bonne comparaison, dans le sens où il y a beaucoup de monde qui se sont demandé qui est Barclay Goodrow quand les Sharks sont échangés au Lightning il y a deux ans, parce que c'est une équipe qu'on voit pas souvent jouer, etc., que c'était un joueur de soutien. Et on a vu l'impact qu'a pu avoir Goodrow. C'est pas le même joueur. Il est un petit peu plus grand, plus gros, joue un jeu
Coleman,
plus robuste.
La même chose.
Exactement. Ben, Coleman, on le voyait plus souvent. On le connaissait mieux. Mais Goodrow, c'était un gars qui a été échangé. Il avait 24 points. 62 matchs, ça ressemble un peu à l'Econ, c'est même un peu moins. Puis le Lightning avait mis un espoir dans la transaction, un certain Anthony Greco, qui, que je sache, n'a pas encore complètement brûlé la Ligue nationale, mais il y avait un autre joueur. Fait que je pense que c'est possible, mais après ça, disons qu'on échange des Conan, je sais pas, à l'Avalanche, mais peut-être qu'il n'y aura pas Byron Barham dans le deal de l'autre côté. Là,
ça, on s'attend à ça. Puis d'ailleurs, Frank Cervelli mettait, même statut, exemple que Goodrow, ce que tu parles, mettait les Conan comme celui qui peut représenter un peu le même genre de joueur pour aider un club qui s'en va un petit peu plus loin. Là, écoute, mon cher ami Guillaume, je veux t'entendre, parce que Simon Olivier, lui, disait presque parti Ben Sherratt. Ça va pas surprendre personne. On parlait de Lekkonen. Et là, je vois quand même trois défenseurs dans cette liste-là. Kulak, Wideman, Petrie. Va falloir garder des joueurs en quelque part. Philo, des défenseurs.
Je peux juste compléter sur Lekkonen vite, vite. Tu sais, ce que je trouve plate là-dedans, c'est que je pense que Lekkonen, on aimerait tous voir l'équipe le garder si possible. Mais on a Armia qui est sous contrat, puis je pense que idéalement, si tu peux passer Armia puis donner cet argent-là à Lekkonen, on n'est pas tous heureux, non?
Oui. Pierre Lebrun, je pense qu'il a parlé qu'il y a des gens qui s'informaient sur Joel Armia.
Eh, tabarouette, écoute, ça, il s'informe, là, rappelle vite. Puis,
moi j'aime beaucoup Armia. Malheureusement, c'est que lui, la constance n'est pas au rendez-vous. Là. Des fois, il est très bon, puis des fois, il est juste pas là. Là.
Ben là, on parle-tu d'Armia?
Ben, on parle d'Armia, oui,
ben, en fait, c'est parce qu'il faut aussi se décider. Si on décide que Lekkonen, c'est la norme qu'il fasse 30-35 points par année puis qu'il soit bon, mais est-ce qu'on décide que Armia, maintenant, c'est la norme qu'il soit pas bon, ou on pense qu'il peut redevenir au niveau de l'année passée, tu sais? Fait qu'il y a ça aussi dans son cas, mais moi, je pense qu'il y a tellement pas un bon contrat par rapport à ce qu'il peut apporter offensivement que je suis un peu aussi d'avis que si, à moins que l'offre soit ridicule, tu sais, je pense quand même que Joel Armia a une valeur dans une équipe, là, mais, tu sais, je pense aussi qu'il y aurait lieu d'être attentif.
OK. Ben, c'est sûr aussi que si justement tu réussis à passer Armia, ben là tu peux regarder pour revenir à ce que Jérémy disait, tu sais, de prendre cet argent-là puis la donner à Lekkonen, parce que Lekkonen, même quand il est pas productif, c'est quand même un joueur qui est utile là, dans une équipe, qui a son rôle, qui va te donner, tu sais, qui va aider son équipe. Donc ça, c'est sûr que c'est notre paire de manches, mais le problème actuellement, on en a déjà parlé, mais c'est ça, c'est que tu as déjà Armia et Byron à 3,4 millions chacun pour des rôles de profondeur aux ailes, donc tu n'as pas besoin d'un troisième salaire comme ça là, sur dans des des positions que tu pourrais remplir avec des joueurs à 1 million. Là.
Bon, je reviens sur les défenseurs parce que Philo a pas voulu répondre à ma question de défenseur. Je comprends, ça t'intéresse pas les défenseurs. Je suis triste, je suis un ancien défenseur, je prends ça personnel. Kulak, Weidman, Petrie. Là, trois défenseurs qui pourraient être potentiellement des candidats à changer d'adresse. C'est quand même trois gars de la Ligue nationale. OK, Weidman est surprenant cette année, c'est un gars qui était dans le KHL auparavant. Mais dans le cas de Kulak et Petrie, c'est quand même des défenseurs dans la Ligue nationale que tu enlèves de ton alignement. Comment vous voyez ça, Philo?
Moi, écoute, c'est sûr que si tu es capable d'échanger Petrie présentement avec la longueur de son contrat, puis tu sais, on l'a vu cette semaine, là, je veux dire, il est capable de nous offrir des performances à la hauteur de ce qu'il nous a démontré dans les années passées, mais veut pas, il va commencer aussi à prendre de l'âge.
Quelle
et
mauvaise
ça.
Boulette en plein milieu de la patinoire contre Vancouver. Aïe,
c'est incroyable.
Comme avant,
exactement, comme dans le vieux temps.
C'est ça, exactement. Donc, peut-être que pendant une fraction de seconde, il a oublié qu'il était le coach en arrière du banc, puis il s'est tout mêlé dans ses...
C'était pas clair, il y avait des zones grises.
Mais je pense que si t'es capable d'échanger ce contrat-là, puis je pense que ça risque d'être compliqué, parce que tu sais la pesanteur du contrat, la longueur du contrat, mais aussi tu sais le nombre de mauvais matchs qu'il a disputé cette année, mais moi, ce serait mon choix numéro un.
OK, Guillaume, trois défenseurs. Si les trois partent, qui va rester là jusqu'à la fin de l'année?
Ben c'est ça, justement, je pense pas que les trois partiront. Je pense qu'effectivement, faut que t'en gardes ici. Faut pas oublier aussi que si tu vides le club en haut, tu mets de la pression également sur ton club école, puis ben le Rocket de Laval est en position de participer aux séries, tout ça. Et tu sais, il y a une belle expérience là qui attend les jeunes du Rocket s'ils finissent par bel et bien se qualifier pour les séries. Donc ça, c'est une autre chose. Donc c'est pour ça que je m'attends pas à ce que les trois partent, mais c'est sûr que chacun à sa façon de bons arguments pour partir. Chris Weidman, on parle pas beaucoup de lui. J'ai regardé un petit peu de chiffres sur lui, puis il y a une chose qui m'a vraiment étonné. En avantage numérique, c'est maintenant que Tyler Toffoli est parti, c'est Chris Weidman. Quand on regarde le nombre de buts par 60 minutes que le Canadien marque en avantage numérique, ben c'est Chris Weidman qui est en haut de la liste. C'est-à-dire que c'est pendant que Weidman est sur la glace que l'avantage numérique est le plus productif cette saison chez le Canadien. Ça, moi, c'est une donnée qui m'a quand même étonné. Puis, tu sais, je disais, Weidman, on s'entend, là, il est rendu à 113 minutes d'avantage numérique, donc c'est quand même un bon échantillon. C'est pas juste une séquence, là, un petit coup de chance. Mm-hmm. Donc, ça, c'est le genre d'indicateur quand même là, qui en dit long sur sa valeur, parce que c'est pas nécessairement sur la feuille de pointage, lui, qu'on voit son impact. Là. Je disais, c'est pas le gars le plus productif. Mais à voir ça, ben ça laisse croire que, bon, ben c'est un gars qui a quand même capacité pour donner un petit coup de pouce à un avantage numérique.
Simon Olivier, tu sais, c'est le fun de Weidman, mais veut pas, c'est un mauvais début de saison en avantage numérique. Et récemment, on a l'impression qu'il y a un petit quelque chose qui s'est créé. Weidman et Sadlas, ils en profitent également.
Mais récemment, c'est-à-dire récemment, pas longtemps, parce que ça a fonctionné contre Edmonton, je pense, qu'ils ont marqué deux fois. Mais c'est tout. Là. Depuis que Saint-Louis est là, l'avantage numérique fonctionne pas du tout, sauf exception comme ce match-là. Puis Weidman, ben je comprends tout ce que Guillaume dit, mais en même temps, c'est le joueur peut-être le plus efficace entre guillemets, ou le plus fiable en avantage numérique, d'un avantage numérique qui fonctionne pas bien depuis le début de la saison. Fait qu'après ça, il faut savoir, es-tu meilleur que le reste d'avantage numérique du Canadien? Fait que ça devient compliqué. Tu sais, dans l'histoire de l'échanger ou pas, moi d'abord, j'ai parlé à son agent hier qui ne s'attend pas à ce qu'il soit échangé. Okay. Puis il a dit qu'ils ont signifié à l'équipe, il aimerait ça revenir. Mais après ça, tu sais, ça veut pas dire que le Canadien le veut. Sa chance-là, peu importe, c'est que ben, ça dépend du retour aussi. Tu sais, si l'année passée, puis j'ai donné un exemple de Weidman qui serait pour être un échange un peu comme celui de Gustafsson l'année passée, qui est un spécialiste comme Weidman, qui était, je pense, moins bon défensivement encore que Weidman à 5 contre 5. Il ne jouait pas à 5 contre 5, Gustafsson, alors que Weidman a quand même du temps de glace. Le Canadien a donné un 7e choix et les Flyers ont payé la moitié de son salaire. Fait que vraiment, on n'avait plus rien à faire de Gustafsson à Philadelphie. Alors qu'à Montréal, ben c'est comme disait Guillaume, mais non seulement il ne faut pas mettre de pression sur le Rocket, mais le Rocket est déjà sous pression récemment. On cherchait des joueurs de remplacement à Laval. Là. Il manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Trois-Rivières aussi, ça va pas bien. Fait que les filiales, c'est pas évident. On manque de gens. Fait que justement, Weidman, est-ce qu'on tiendrait à ce point-là un choix de 7e ou de 6e tour pour après ça mettre en danger toute l'espèce d'équilibre dans l'organisation? Peut-être pas.
Mettre Petrie sur l'avantage numérique, monter monter Schooneman, mettons, quelque chose de même pour jouer à 5 contre 5, c'est quelque chose qu'on peut faire.
Tout ça se peut, effectivement, mais tu sais, c'est pas comme tu sais, Hughes revient souvent là-dessus, il dit, Toffoli, j'étais pas en train d'essayer de l'échanger, c'est arrivé. Il disait la même chose de Lekkonen, et je pense que c'est un peu comme vrai pour tout le monde. Il est pas en mission de dire, on fait table rase sur quiconque est prêt à partir ou on peut avoir un retour, mais faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant, puis tu sais, dans mesure où il est pas justement sous pression de gagner maintenant, est-ce que, je reviens à ma question, est-ce qu'un choix de sixième tour vraiment va aider le Canadien à reconstruire à court terme? Je pense pas.
Mais là, messieurs, j'écoute ça, là, je nous écoute parler et je me dis, si on dit que le Canadien va être actif au marché des joueurs autonomes, ça va prendre la place, ça va prendre l'argent. Ouais. Comment on va arriver à créer cet espace-là? On va s'arrêter quelques instants. Notre ami Philo s'en allait partir. On est comme au banquier. Garde ça. Après la pause, on fait une courte pause. Restez là.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
On est de retour au balado sortie de zone, épisode 38. On est en compagnie de Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Laurence, Jérémy Filosa. Simon-Olivier, je veux juste poursuivre dans ton dossier. Tu disais, il y a une portion où c'est compliqué. Il y a des gars que ça sera compliqué si on les voit changer de place. Et j'ai l'impression que c'est cette portion-là qui va donner peut-être un peu d'espace sur la masse salariale si on veut respecter ce qu'on a dit dans le cas de Kent Hughes et de Jeff Gorton, c'est-à-dire être actif sur le marché des joueurs autonomes cet été. Et là, tu évoques des gars comme Anderson, Gallagher, Hoffman, Byron, Armia, tu l'avais mis là-dedans. Et Philo, tu allais réagir juste avant la pause. Est-ce que tu vois des gars comme ça être capables de quitter?
Juste avant, parce que tu t'en allais, je pense.
Et Drouin, on a juste Drouin là-dedans.
Ouais, ben oui. Sur une autre tangente, c'est que tu sais, j'ai regardé les commentaires de Pierre Dorion là, sur Sportsnet là, cet après-midi dans une entrevue qu'il a donnée, qui disait... Ceux qui s'attendent à des feux d'artifice à la date limite des transactions, détrompez-vous, parce que ça fait un bon bout de temps que je suis directeur général, puis ça n'a jamais été tranquille comme ça. Moi, je pense que le plafond salarial qui ne bouge pas, ou à peu près pas, là, veut pas, tu sais, ça rend la vie des directeurs généraux encore plus compliquée. Parce que des fois, tu peux faire des transactions en disant, OK, ben de toute façon, l'année prochaine, je vais être correct parce que je vais avoir 3-4 millions de plus. Là, tu l'as pas. Tu sais que ça existe pas. Donc, faut que tu trouves des équipes avec qui tu peux échanger peut-être un joueur de valeur équivalente, ou faut t'en trouver deux qui vont... ou une équipe qui a un petit peu d'espace sur le plafond salarial ou vice-versa. Moi, je pense que ça complique vraiment la donne. Puis je pense que ça va faire en sorte qu'il y a beaucoup de transactions qui vont rester sur la table
donc,
à cause de ça.
Donc, les Anderson, Gallagher, Hoffman, Byron, Armia, Drouin, c'est des gars qui vont rester avec le Canadien.
Pas ben, tous, nécessairement, mais...
À court terme, moi, je pense que oui. Moi, je les mettais là. En fait, pourquoi c'est compliqué? C'est parce que, en fait, le sous-texte, que je pense pas qu'ils vont se faire échanger à date limite des transactions. Je pense que si c'est les gars qui partent, ce serait possiblement pendant l'été, alors que les équipes, tu sais, ont peut-être plus de marge de manœuvre à l'approche du repêchage. En fait, c'est ça. On va peut-être accepter un contrat, un mauvais contrat en retour, peut-être de moindre valeur ou qui a moins de durée. Mais, tu sais, peut-être à part Josh Anderson, qui je pense qu'il peut avoir une grande valeur dans la Ligue nationale, je vois pas un autre des autres. Tu sais, je pense pas qu'un DG va prendre tel quel le contrat de Paul Byron avec encore une saison à 3,4 millions quand c'est un gars qui marque peut-être en bas de 10 buts par année.
À moins que le Canadien garde une portion du salaire.
Exact.
À moins qu'on fasse ça. OK.
Mais tu sais, l'autre chose, par exemple, quand t'arrives à l'été, c'est que ces joueurs-là que tu cherches à échanger, il y a un nouveau marché qui se crée avec les joueurs autonomes. Et là, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu prends ce qui reste à ces contrats-là et tu compares ça avec ce qui se donne sur le marché, avec les joueurs qui sont disponibles. Et là, tu dis, bon, ben, tu sais, est-ce que telle équipe pourrait en vouloir? Tu sais, est-ce qu'une équipe qui regarde sur le marché des joueurs autonomes, justement, se dit, bon, ben, Paul Byron a un an, 3,4 millions. OK, c'est beaucoup. Là, justement, vous parliez de retenir du salaire. Tu sais, si le Canadien retient un million là-dessus, Paul Byron a un an, 2,4 millions. Tu peux l'essayer peut-être. T'sais, Mike Hoffman, 2 ans, 4,5. Je sais qu'il est énigmatique puis tout, mais il y a beaucoup de joueurs sur qui les équipes parient là, quand arrive le marché des joueurs autonomes. Donc, est-ce que tu prends un pari sur un joueur à qui tu risques de devoir donner beaucoup d'années ou tu dis à la place, ben regarde, Mike Hoffman, 2 ans, 4.5. Je vais l'essayer. J'aime mieux ça que de donner 3 ou 4 ans avec peut-être un montant plus petit à un autre gars. Regarde, lui, c'est juste 2 ans dans le pire des cas si ça marche pas. Donc, tu sais, c'est des possibilités comme ça qui s'ouvrent en été, puis c'est ça. Donc, je rejoins Simon Olivier. Là, c'est pas des gars, c'est vraiment pas des candidats à être échangés d'ici la semaine prochaine. Mais en été, ça les perspectives changent, puis c'est là que c'est des gars de même peuvent devenir des possibilités.
Et là, ça nous amène à parler du dossier Shea Weber, parce que là, Shea Weber est présentement sur la liste des blessés à long terme. Il n'a toujours pas annoncé officiellement sa retraite. Et là, on parle que son contrat pourrait être transigé à différentes formations dans la Ligue nationale de hockey pour différentes raisons. Soit pour atteindre le plancher salarial ou pour ceux qui sont au plafond, question de se créer un peu d'espace. Donc, Shea Weber pourrait peut-être changer d'adresse. Dans un premier temps, je veux commencer avec Guillaume puis avec Philo également. Les deux, vous avez regardé, et je sais que Simon Olivier
non,
aussi.
Non, c'est légal.
Non. Je suis en train de dire, lui, il a pas fait sa job.
Je vais les écouter avec attention.
Non, mais je veux commencer avec Guillaume. Peut-être me dire, dans un premier temps, pourquoi c'est si bon que ça que Shea Weber soit plus avec le Canadien? Et pourquoi, quel avantage le Canadien a à se débarrasser du contrat de Shea Weber, Guillaume?
Ben un des avantages, puis on n'en parle pas souvent là, de ça, ben c'est dans les nuances là, disons de la convention collective, mais c'est que tu sais en été une équipe a droit d'excéder le plafond salarial, là, si on en a déjà parlé, bon t'as droit d'excéder le plafond salarial de 10% pendant l'été tant que tu te conformes là, une fois que le camp d'entraînement arrive, mais ton plafond en été, il inclut ces joueurs-là qui sont blessés. Donc là, dans ta masse salariale d'été, ben le 7,8 millions de Shea Weber, il compte. Tout comme le 10,5 millions de Price d'ailleurs. Tu sais, comme ça, c'est quand même deux gros salaires qui sont comme cachés un peu là, cette saison, mais rendus à l'été, ces salaires-là vont compter. Donc c'est sûr que si tu réussis à échanger Weber, ben tu donnes un coussin, tu donnes de la flexibilité pour l'été. Donc ça, c'est sûr que c'est un des avantages là, à pouvoir échanger son contrat.
Excuse-moi, Guillaume, je veux juste comprendre une chose. Quand tu parles d'été, dans le calendrier de la Ligue nationale de hockey, ça représente quoi? La fin de la saison?
Oui, exactement, c'est ça. À partir de la fin de la saison jusqu'au camp d'entraînement, dans le fond. Donc, à ce moment-là, tu as droit d'excéder le camp d'entraînement, le plafond salarial, puis c'est ça, faut que tu te conformes pour le début de la saison.
On s'entend que le Canadien ne sera pas capable de respecter ça avec les joueurs qui ont là.
Ben, c'est ça, avec ces deux, c'est ça, avec Price et Weber, c'est ça, c'est très difficile à faire.
Je pense à 93 présentement, puis le plafond est à 81, grosso modo, fait qu'on pourrait dire que la marge de manœuvre pourrait les amener jusqu'à 89, 90, puis ils dépassent déjà à cette heure-ci. Là.
Okay. C'est ça, exact.
Philo, les conséquences de Shea Weber, parce que là, son contrat est pesant et lourd pour à peu près tout le monde. Ce qui est le fun, puis là, ça, c'est vraiment une blague, puis je veux faire ça avec grand respect, c'est que, étant donné que les Coyotes de l'Arizona, à peu près tout le monde paye les Coyotes de l'Arizona, ben les Coyotes, en retour, disent, ben nous, on pourrait être une terre d'accueil si vous avez besoin d'envoyer des contrats. On parle beaucoup des Coyotes de l'Arizona. Raconte-moi les conséquences du contrat de Shea Weber.
Ben, écoute, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au début de chaque année, pour des joueurs qui sont sur la liste des joueurs blessés à long terme, il y a un médecin qui va venir les rencontrer, il va leur faire passer un test physique et c'est à partir de ce test-là qu'on détermine si le joueur peut aller sur la liste des blessés à long terme. Donc, Weber va devoir repasser ce test-là au début de l'année. Et si on dit, ben écoute, t'es apte à jouer, à toi de décider maintenant qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu te rapportes au camp ou est-ce que tu prends ta retraite? Et là, ben ça pourrait amener des complexités pour le Canadien, pour les Prédateurs, s'il devait prendre sa retraite. Dans le cas des Coyotes, ben c'est sûr que ça te coûte 6 millions de dollars, sauf que ça représente quoi 14, presque 30 millions de dollars sur ton cap salarial pour les 4 prochaines années. Fait que c'est un petit montant à débourser pour s'assurer d'atteindre le plancher salarial. Mais ils pourraient faire cette faveur-là aux Canadiens. Mais il va falloir que tu leur donnes quelque chose. Tu sais, il va falloir que tu leur donnes un choix au repêchage ou un jeune joueur pour dire.
Il y a des clubs qui en auraient besoin. Et tu faisais référence dans ton texte aux Wild du Minnesota qui, eux, auront des pénalités à payer de quoi 12 millions l'année prochaine après les rachats de Parise et Suter?
Ben, c'est ça. L'héritage de leur ancien DG est absolument épouvantable là, parce qu'ils doivent payer encore Parise et Suter, comme tu l'as dit, pendant des années. Et je pense que c'est ça l'année prochaine. Je me demande si c'est pas 10 millions.
C'est 12 millions. C'est 12 millions. 6,3 chacun. Donc, 12,7 millions qui vont coûter Parise et Suter. C'est épouvantable. Puis c'est 14,7 l'année d'après, les deux années suivantes.
Ça n'a aucun bon sens. Puis donc, je pense que c'était Michael Russo, le journaliste d'Athletic qui couvre les Wild, qui avait proposé ça en premier, de dire, ben c'est parce qu'il faut savoir, la liste des blessés à long terme, c'est ultra compliqué, mais c'est parce que ça, c'est comme si ça, ça débloquait un niveau supplémentaire pour les, les DG. Là, c'est un calcul complètement différent pour la masse salariale. Ça donne une marge de manœuvre différente. Il y a plein d'impacts négatifs, notamment, tu sais, on faut reporter les bonnies à l'année d'après. Ça, c'est un chiard, là, on va appeler ça comme c'est, mais ça peut être pratique à court moyen terme. Moi, je pense que si chez Weber n'annonce pas sa retraite dans les 4 prochaines années, je pense qu'il pourrait être échangé une fois, deux fois, trois fois parce que les équipes vont, différentes équipes vont vouloir s'en servir, soit comme disait Jérémy, avec dans le fond avec le, sa forte masse sur la son poids très lourd sur la masse salariale comparativement à son salaire qui décroît, son salaire réel, ou pour la marge de manœuvre avec la liste des blessés à long terme dont par exemple le Lightning de Tampa Bay est devenu un expert au cours des dernières années.
Écoute, on peut te dire une chose.
Ouais.
La Ligue nationale a fait une bonne chose de se débarrasser de ces longs contrats, ce qu'on appelait les front loaded là, tu sais comme Parisé, c'était ça, 13 ans. Ça commençait la première année à 12 millions, ça finit à 1 million, un peu comme ceux de chez Weber parce que écoute, ça finit plus de finir.
C'est quoi? Pis... En argent sonnant, c'est 3 millions l'année prochaine plus 1 million pendant 3 ans pour chez Weber.
Exact.
Et il y a une conséquence qu'il faut mentionner, c'est que s'il prenait sa retraite, Nashville aura sur sa masse salariale à ajouter, je pense, c'est 4 millions de dollars.
Exact. Et 800 000 pour le Canadien.
Ouais, non, c'est plus que ça parce que c'est... Ça aussi, c'est un calcul compliqué parce que dans le fond, c'est que toute l'argent...
C'est la portion qu'on a épargnée.
C'est exactement ça. C'est toute l'épargne qu'on a faite divisée par le nombre d'années restantes. Mais avant, la clause a changé dans la dernière année ou depuis 2 ans parce qu'avant, c'était... Tu le payes d'un coup. Fait que ça aurait pu faire une masse salariale de, tu sais, de genre 40 millions ou de 25 millions sur la masse des prédateurs. Ça aurait pas eu de bon sens. Maintenant, on l'échelonne sur le nombre d'années au salaire moyen du joueur. Fait que disons que la pénalité, c'est 20 millions. Weber fait 7 millions. Je résume, là. Ce serait pendant 3 ans, il y aurait le salaire de chez Weber.
C'est pour ça qu'il y a quelqu'un dans le bureau des prédateurs de Nashville qui est tombé en bas de sa chaise quand Drouin a dit, ben Weber, il est
en retraite. Ben, mon Dieu, je t'écoutais, Simon Olivier, j'aurais dû commencer avec toi. T'as l'air le gars le plus informé de la gang.
Ah, oh, écoute.
Quel étudiant studieux, bravo. je veux savoir, Guillaume, chez Weber, t'es à Vancouver. Vous l'avez vu, t'es à Vancouver, a pas voulu parler aux médias, pas voulu parler aux journalistes. Est-ce que ça vous agace, ça? Ça vous fait, Guillaume, ça te fait-tu quelque chose?
Oui, personnellement, oui, dans la mesure où il y a encore le titre de capitaine, justement. Je pense que, tu sais, si comme organisation, tu décides ça, puis là, je comprends que la direction actuelle, c'est pas sa décision, là, c'est une décision dont elle a hérité de Marc Bergevin, mais ça reste que toi, comme organisation, je pense que c'est important de le rendre disponible au moins une fois. Et lui, de son côté, pour sa part aussi, c'est de comprendre sa responsabilité. Il y a encore officiellement le titre de capitaine. C'est un joueur important à qui parler, tout ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça quand même assez ordinaire, là, je veux dire, ne serait-ce que d'accorder un 10-15 minutes. Là, je comprends qu'il y a des aspects délicats à ça, mais regardez, ça s'explique, là, puis les joueurs, les coachs et les DG passent leur saison à discuter de dossiers délicats à gauche, à droite. Donc, tu sais, j'ai pas été impressionné, là, par la décision de Weber là-dessus, là, de ne pas vouloir parler.
Mais Chantal est là pour la transparence, ça nous a dit, hein, Chantal. Chantal était là, c'était un changement finalement. Il y a des dossiers où Chantal n'a pas le choix non plus. On a beau arriver avec des bonnes intentions, mais tu n'as pas le choix.
J'ai jamais vraiment beaucoup apprécié les relations avec chez Weber. À chaque fois qu'on lui posait des questions, déjà qu'il était assez grand, mais en plus il regardait au plafond. Fait que il nous regardait jamais dans les yeux.
C'est ça.
Fait que ça, si tu fais un pied de plus que moi, ben en plus tu regardes au plafond, j'ai l'impression de parler.
Ton honneur d'homme qui en prenait un coup au philo.
Non, mais c'est assez clair que ça y tentait pas vraiment. T'sais. Voilà.
Alors, messieurs, on va s'arrêter quelques instants, on va faire une très courte pause, puis au retour, on va parler du calendrier de la Ligue nationale de hockey. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça sera un brin chargé au mois de mars, un brin chargé au mois d'avril. À travers tout ça, on demande aux gars de performer et surtout de pas se blesser pour être prêt pour les séries de fin de saison. Il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. On s'arrête quelques instants.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
On est de retour au balado Sortie de zone, 38e épisode. On est en compagnie de Guillaume Lefrançois de la presse, Simon-Olivier Lorange de la presse également, et notre collègue du 98.5, Jérémy Filosa. Messieurs, OK, la COVID a bouleversé le calendrier de la Ligue nationale de hockey. Et là, ça fait en sorte que c'est un calendrier démentiel qu'on retrouve présentement. 15 matchs en au mois de mars pour le Canadien de Montréal. Même, je regardais cette semaine, c'est 4 matchs en 16 jours pour les Flames de Calgary. Simon Olivier, comment les joueurs vont pouvoir arriver à performer là-dedans et à se tailler une place en série, parce que dans l'Ouest, il n'y a rien de gagné, là?
Ben, je pense que ça va être très difficile. Puis, en fait, ça rappelle étrangement la saison dernière, alors que c'était vraiment une cadence complètement presque insoutenable. Et c'est drôle, tu évoquais les Flames de Calgary. La semaine passée, j'étais justement à Calgary pour suivre le Canadien dans l'Ouest, sauf Vancouver. Je manquais la meilleure ville. Mais puis Darryl Sutter en a parlé parce que justement, c'est son équipe qui s'approchait d'un 5 en 8. En fait, je voyais, si on étire un peu la séquence, puis il disait que ça devrait être illégal. Il dit présentement, il a pas dit en ces mots-là, mais tu sais, les personnes les plus importantes, c'était les thérapeutes qui préparent, tu sais, les trainers qui préparent les joueurs à finalement être prêts pour les matchs. Les équipes s'entraînent très peu. Même le Canadien dans l'Ouest s'est pas entraîné à Edmonton et s'était pas entraîné, je pense, à Calgary non plus. On a, tu sais, c'était des entraînements optionnels où il y a même eu un jour de congé. Tu sais, on lève le pied, puis c'est la même chose l'année passée quand Dominique Ducharme est arrivé. On commençait à sauter des journées parce que faut passer à travers ce calendrier-là. Et ben évidemment, je veux dire, tout le monde est dans le même bateau. Fait que jusqu'à un certain point, ils vont y arriver aux séries, mais oui, c'est très difficile.
Philo? Ben écoute, tu sais, je regarde le Canadien aussi. On a une séquence de 5 en 8 là, qui s'en vient à la fin du mois, entre le 24 et le 31 mars.
Ils vont jouer. En fait, à partir de demain, même, c'est un 5 en 8 aussi.
Bon, t'as un autre 5 en 8. La seule pause au mois de mars là, qui s'en vient de deux jours, c'est le 22 et le 23. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des matchs qui ont été reportés de la fameuse pause de la COVID qui ont été ajoutés. C'était déjà un calendrier chargé. Et là, tu as rajouté, dépendant des équipes, un, deux ou trois matchs dans ce calendrier-là, encore plus chargé. Dans le cas du Canadien, ben écoute, il n'y aura pas de séries éliminatoires. C'est une chose, mais pour les autres équipes, là, ça va être compliqué.
Guillaume, comment on fait pour performer et surtout comment on fait pour garder un club en santé à l'approche des séries de fin de saison?
Ben, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans ses commentaires, c'était pas une question par rapport au calendrier, mais Chris Weidman a laissé tomber un commentaire que je trouvais intéressant. Il disait, dans les entraînements avec Martin, là, il y a pas beaucoup de répétitions. Donc, quand t'as la chance d'aller faire un exercice, là, ben, assure-toi que ça compte, assure-toi d'en profiter puis d'en tirer le maximum parce que, tu sais, on va pas le refaire 10 fois. L'entraînement d'aujourd'hui, là, ça durait maximum 40 minutes, là, à peu près. Quand j'ai regardé, là, Martin, il était à peu près 1h40 quand Martin Saint-Louis a rassemblé tout le monde au milieu de la glace pour quelques mots avant de laisser les gars aller. Donc je pense que c'est de cette façon-là. Depuis que Saint-Louis est arrivé, là, ça a pas mal toujours été des entraînements justement très très efficaces, très compacts. J'ai pas de souvenir de voir les gars là pendant 1h15 sur la patinoire. Donc je pense que c'est un des moyens justement que Saint-Louis a trouvé pour gérer ce volume de travail là.
Hey, les boys, en terminant, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça parce que le Canadien trouvait plus le moyen de gagner un match, mais là il retrouve le moyen de gagner une fois de temps en temps. Il va falloir y aller avec quelques petites prédictions. Kraken en fin de semaine, Flyers de Philadelphie, 0 point sur 4, 2 points sur 4 ou 4 points sur 4, Simon-Olivier?
1 point sur 4.
1 point et tabarouette. Ouais, même contre le Kraken?
Ah oh, oui.
Et le point contre le Kraken ou Philadelphie?
Contre Philadelphie.
Oh, quand même.
Le Canadien perd contre les pas bons. Hein? Fait que faut oublier ça.
J'espère qu'ils vont se racheter au moins contre le Kraken. Avait perdu au début de la saison.
Tu irais dire ça au point de presse du Kraken. Ouais, le Canadien perd contre les pas bons.
4 points sur 4 pour moi pour ce week-end. Puis, hey, by the way, j'ai vérifié juste pour le fun. Demain soir, tu sais, comme les sites de revente, là, pour acheter deux billets, là, le moins cher que j'ai trouvé, c'est à 72$. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'intérêt. Tu sais, on se pose la question, est-ce que ça va être plein ou tout ça? Ça va être le premier match où on va pouvoir avoir 100% des spectateurs. Il y a de l'intérêt pour ce match-là. De la curiosité peut-être pour le Kraken aussi.
J'aimerais savoir un update à 18h demain, voir si on est rendu à combien. Mais
on pourrait, je suis très surpris.
4 points sur 4 pour Philo, Guillaume.
2 sur 4. Je vais y aller avec la victoire à domicile contre le Kraken, défaite à Philadelphie le lendemain. Voilà, vous savez où mettre vos économies maintenant.
Bon, mais c'est ce que je vais faire, Guillaume. Je vais te suivre là-dedans. Victoire contre le Kraken et défaite contre les Flyers de Philadelphie. Je vous remercie énormément. Voilà ce qui conclut cet épisode 38 du balado Sortie de zone. Guillaume Lefrançois, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, JR.
Simon-Olivier Larange, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là.
Merci à toi.
Philo, hey, toujours bien fun.
Absolument. On se retrouve sans faute ce week-end.
T'es positif. 4 en 4, parle-moi de ça. Voilà ce qui conclut cet épisode 38. On se donne rendez-vous dès lundi pour un autre épisode du balado Sortie de zone.